France Inter. Le masque et la plume. Si vous ne pouvez pas assister aux enregistrements du masque, le masque viendra à vous. Après Nancy, Brive-la-Gaillarde, nous voici à Poitiers, dans la magnifique salle du TAP, comme Théâtre Auditorium de Poitiers. Une nouvelle date de tournée, donc, comme une façon... comme une façon de fêter 70 ans d'émission en public, où vous participez au débat critique en prenant la plume ou le micro. L'actualité du cinéma est au programme de l'épisode du jour, avec le nouveau film d'Abdelatif Kechiche, la fiction autobiographique de Romane Boringer intitulée « Dites-lui que je l'aime », une histoire d'amour et d'émancipation dans un film d'époque, c'est « La condition » de Jérôme Bonnel, le troisième long-métrage du jeune cinéaste chinois Bigan, primé à Cannes, et la nouvelle comédie de Fabrice Eboué qui raille certaines obsessions identitaires françaises. Pour en débattre, quatre journalistes en habit de lumière, Marie Sauvion de Télérama, Christophe Bourseiller du magazine Transfuge et de France Inter, Ariane Allard de Positif et Nicolas Chalère du Nouvel Obs. Merci pour votre constance. Des critiques, des publics, des cinémas. Bonjour, bienvenue, voici le masque. Écrire au masque est l'occasion d'approuver ou de critiquer les critiques. Et jusque début février, c'est aussi la possibilité de voter pour le meilleur film français et le meilleur film étranger de l'année. Pour faire part de vos choix, une adresse mail, le masque et la plume, tout attaché et en minuscule, le masque et la plume, @radiofrance.com. Pour ce qui concerne le courrier de la semaine, la voix de Hind Rajab de Kauter Benania vous a largement mobilisé. Pour rappel, le film part d'un fait réel, l'appel au secours d'une fillette gazaouie de 6 ans, finalement tuée par des tirs israéliens. Les membres du croissant palestinien en ligne avec elle tentent vainement de la sauver. La plupart de vos mails s'émeut d'une critique qui n'a porté que sur la forme du film, qui mêle fiction et documentaire. Ce long métrage est à comprendre comme une reconstitution de ce qui s'est joué, écrit Yoko de Rouen. Certains ont parlé de manipulation, alors qu'il est question de combler des manques visuels, comme un restaurateur le ferait avec un tableau. Chacun a donné un avis cinéphile, poursuit Claudine Bourgoin de Toulouse, mais personne n'a parlé avec son cœur. Ce film a l'immense mérite de condenser en 1h30 toute l'horreur que les Palestiniens vivent depuis plus de 2 ans. Il devrait être vu par des milliers de spectateurs. Analyser cette œuvre uniquement sous l'angle de la mise en scène revient à ignorer l'essentiel, l'humanité. Ce film a pour but de témoigner pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas », conclut Habibatou de Paris 12e. Le deuxième long-métrage que vous avez aimé à l'unanimité dans le courrier est celui de Dominique Moll, dossier 137, où Léa Drucker enquête sur une bavure policière pendant les manifestations des Gilets jaunes. 17h30, j'écoute le masque en podcast et vous lancez la séquence dossier 137, écrit Benoît Leub. 17h47, j'annule ma vie sociale pour prendre la direction du cinéma. Salle pleine à craquer, ne restait qu'une place au premier rang. Bilan, j'ai un torticolis, mais j'ai adoré le film. Dominique Moll réussit un pari impossible, écrit Jean-Marie Barbeau de Paris 15e, éviter le piège d'un manichéisme simplificateur. Il s'adresse aux citoyens autant qu'aux spectateurs. Que demander de plus? Depuis Los Angeles, Guillaume s'exclame, auditeur du masque, allez voir Bugonia de Yorgos Lanthimos plutôt que Predator Badlands ou Running Man. Enthousiasme général pour ce film, Mathilde Fouquet nous écrit par exemple d'Alfortville. Bugonia est une fable sur le langage, sur la façon dont ceux qu'on qualifie trop vite d'inculte pensent et analysent le monde sans pouvoir le théoriser. Là où vous voyez des personnages idiots, Le film montre exactement comment le manque de langage pousse à fabriquer des récits, des mythes, des complots, pas par stupidité, par manque d'explications claires, de réponses honnêtes, et sous le poids d'une élite qui parle tellement bien qu'elle finit par faire taire ceux qui ne manient pas son vocabulaire. Bref, Bugonia est un film politique et brillant sur une humanité qui cherche des mots faute d'avoir des réponses. Je ne vous cache pas que parmi les centaines de mails reçus, certains sont des litanies d'insultes, exercice assez répandu par les temps qui courent, mais à vous lire, le courrier du masque a aussi cette vertu, élargir le regard. On commence avec Mektoub My Love, Canto Doué d'Abdelatif Kechiche, qui clôt une trilogie tournée il y a 9 ans, et la sortie de ce troisième volet n'était plus attendue. Le deuxième fut présenté à Cannes en 2019 avec une scène de sexe intégrée au montage final sans le consentement de son actrice principale. Le film n'est jamais sorti en salle pour des raisons de droits musicaux. Depuis cette sortie annulée, Abdelatif Kechiche a été l'objet d'une plainte pour agression sexuelle classée sans suite. Sa société de production a fait faillite et un AVC l'a empêché d'accompagner ce nouveau film au festival de Locarno l'été dernier. Voilà pour le contexte. Contexte qui a peut-être joué dans le montage du troisième volet de cette fresque, inspirée du roman de François Bégodeau, intitulé « La blessure, la vraie ». La jeunesse de Seth, incarnée par les mêmes acteurs, est toujours au cœur du film. Nous sommes en 1994. On retrouve Amine, Tony, Céline, Ophélie et le désir qui circule entre eux. Amine rêve toujours de cinéma et l'arrivée d'une jeune actrice américaine flanquée de son vieux mari producteur rend son rêve possible. La starlette américaine interprétée par Jessica Pennington affirme à Amine « Les réalisateurs, il n'y a pas pire. Toi, tu es trop innocent pour l'être. Marie, c'est toi qui ouvres le bal pour ce film d'Abdelatif Kechiche. »
Oui, parce que c'est un film qui parle de cinéma en même temps qu'il parle de cette jeunesse de désir. Et je ne m'attendais pas à être aussi émue en retrouvant ces personnages 7 ans et demi après la sortie du premier volet. Il se trouve que je ne suis pas la critique la plus kechichienne de la planète. Et pourtant, j'ai été émue, transportée de retrouver la fin de cet été 94. On est en septembre, très peu de temps a passé entre le premier volet et celui-ci, dans la fiction, et beaucoup de temps a passé dans la vie. Et la première surprise, c'est que le film est à la fois un peu le même et très autre. Il est très différent, ne serait-ce que parce que la place accordée au scénario, tout à coup, devient assez primordiale. Les péripéties font irruption. Il se passe des trucs, pour dire les choses simplement. Il y a une manière de polar, il y a des coups de feu, il y a des flics qui vont venir assombrir ce qui était jusque-là assez édénique dans cette trilogie. Évidemment, Kechiche, c'est un cinéaste de l'épuisement. Alors, c'est l'épuisement des acteurs, des actrices, des techniciens. C'est parfois l'épuisement du spectateur, à commencer par le mien. Mais c'est surtout, et c'est là où ça devient vraiment très passionnant, son travail, c'est l'épuisement des scènes. Et même si ce film-ci rentre davantage dans des canons habituels de distribution, il fait 2h15, il y a une histoire, un début, un milieu, une fin, très ouverte, il a gardé ce sens génial de la scène. Qu'est-ce que c'est qu'une scène chez ce grand naturaliste ? C'est de la vie qui palpite et de la surprise à chaque coin d'image. Et en même temps, il est différent. Je pense qu'il n'est pas cadré pareil. Je pense que le temps, là, joue un rôle fondamental. On retrouve des gens qui ont tourné un film il y a quasiment 10 ans.
Ouais.
Après 2 ans de montage, et un montage avec des cadrages qui sont très différents du premier volet. Et il y avait 1000 films possibles, il y avait 1000 heures de rush. Et l'impression que j'en avais en sortant, c'est que c'était un film post-MeToo, post-crise, post-faillite, tout ce qui s'est passé ces dernières années, parce que les scènes d'amour, même s'il y en a une en miroir avec le premier volet, c'est très différent. Mais en tout cas, il me semble que c'est un événement et une clôture de belle manière.
Christophe,
C'est le scénario le plus indigent de l'année. Je crois que Abdelatif Kechi souffre du syndrome du réalisateur mégalomane. Alors on l'a vu, il a toujours été un cinéaste du coup de pub. On l'a vu avec ce film navrant qui était La vie d'Adèle. Moi, c'est vrai que j'avais pas du tout aimé Make to My Love, Canto Uno, où on voyait des derrières qui se trémoussaient pendant des heures sur de la techno. Je trouvais pas ça tellement une œuvre d'art tellement palpitante. Et là, je dois dire que l'on est face à effectivement un cinéaste mégalomane qui essaie de faire passer pour de l'art un scénario indigent avec notamment des personnages ridicules comme par exemple un producteur américain, mais on se croirait dans un film de De Funès, enfin vraiment avec sa jeune
en l'occurrence
starlet.
Il y a une drôlerie qui est inhabituelle chez Kechiche.
Mais je ne suis pas sûre qu'elle soit volontaire, cette drôlerie.
Moi je pense que si.
Qu'est-ce que j'ai rigolé.
Faire passer pour de l'art justement.
Écoute, la starlette en question passe son temps à s'empiffrer de couscous du genre l'impérialisme américain nous mange tout cru. Bon, excuse-moi, j'ai pas vraiment été passionné par ce film. J'ai trouvé très long, et pour terminer, pardon, hein, mais je trouve qu'il y a un côté Macron chez Kechi, c'est-à-dire que
il veut
laisser son nom dans l'histoire et il ne sait plus quoi inventer.
Nicolas ?
Ben non, alors c'est un drôle de film en fait. C'est un film qui porte les stigmates de sa production chaotique. On ne sait même pas si c'est vraiment un film de Kechiche, parce qu'il l'a peut-être supervisé, mais il a quand même eu un accident cérébral. Il a pu tous ses moyens visiblement, et il a été beaucoup entouré par des monteurs.
Il y a 9 monteurs aujourd'hui.
Voilà, il y a 9 monteurs. C'est un film qui paradoxalement pourrait être un succès populaire parce qu'il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus drôle. Ouais. Effectivement, il a un côté plus vaudevillesque.
Ah bon, accessible à qui?
Sauf qu'il faut avoir vu le précédent pour vraiment l'apprécier, ce qui est presque
pas
paradoxal.
Forcément.
Oh, quand même. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé beau chez Kechi, c'est tout ce que Christophe n'aime pas, c'est-à-dire que il a toujours effectivement travaillé des scènes, étiré des scènes jusqu'à l'épuisement, des scènes de naturalisme comme ça, sans vraiment effectivement de scénario à rebondissement fou, parce qu'il regarde ses personnages, il regarde le désir de ces personnages, il regarde le soleil se refléter sur leur peau. Il y a une scène à la plage qui est très belle, qui est d'ailleurs reprise dans Intermezzo. Et là, il passe du marivaudage au côté un peu vaudevillesque. C'est-à-dire qu'on est vraiment...
En tout cas, oui, effectivement, sur la durée, il y a énormément de ruptures de ton.
Il y a des ruptures de ton, il y a une dimension effectivement humoristique, et on est vraiment presque dans le vaudeville. On arrive dans le vaudeville avec quand même une forme de noirceur à la fin, parce qu'il y a, toute une scène à l'hôpital. On est à la fois dans le soap-opéra, il prend un peu la forme que traite le film, puisque l'actrice est une actrice de soap-opéra, et il y a comme ça un clin d'œil. Alors il se regarde. Le problème, c'est le personnage de Chahine au milieu, qui est lui, qui est Kechiche, qui est un peu idéalisé, et qui est un peu intouchable, qui regarde tout ce monde se débattre. Moi, je trouve que les plus belles scènes du film.
Chahine Boumediene qui interprète Amine.
Je finis, je trouve que les plus belles scènes sont celles avec Ophélie Beau, qui était vraiment au centre du premier film, qui là est un peu à l'écart, qui sont un peu des redites du premier. Mais voilà, il y a quand même de très belles choses. C'est pas un grand film, c'est un Kechiche inattendu, plutôt agréable.
Et très ennuyeux.
Mais non. Ça se prend justement beaucoup moins pour un grand film que ne l'étaient les précédents.
Ariane, est-ce que tu vas...
Je rejoins curieusement, c'est une des premières fois que ça nous arrive, je rejoins totalement Christophe, avec lequel je suis jamais d'accord.
C'est vrai que c'est inédit.
C'est un scoop, là.
Voilà, non, mais je trouve que c'est un film médiocre, tout simplement. C'est curieux, tu évoques le vaudeville parce que ça fait chic. En fait, ça ressemble à une sitcom, tout simplement. Le scénario est très pauvre, les scènes de vaudeville sont laborieuses, grossières, insistante. Enfin, je trouve que le trait est tellement épais. Et par ailleurs, c'est quand même juste un autoportrait. C'est le portrait de l'artiste en jeune homme, et en jeune homme incroyablement narcissique. D'ailleurs, le film s'ouvre sur l'image de Amine, hein, ce jeune acteur qui est le double, en fait, de Kechiche. Et ensuite, les autres comédiens, les autres personnages n'auront de cesse pendant tout le film de lui dire qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est pur, ça c'est super important.
Et qu'il n'est pas fait pour être cinéaste.
Et qu'il n'est pas fait, et surtout que s'il devient réalisateur, ça va le corrompre. Donc c'est un homme.
Oui, mais voilà, en même temps, c'est marrant.
Et il n'y a aucun humour à ce moment-là, je crois.
Cette actrice américaine, Jessica Pennington, qu'on n'a jamais vue avant, qu'on reverra sans doute jamais après, parce que...
Elle parle la bouche pleine tout le temps, la pauvre, c'est pas marrant.
Pleine de couscous.
Mais c'est marrant parce que tu dis ça comme si la bouffe, ça racontait pas quelque chose chez Kechiche.
Tous les réalisateurs savent.
Et ça raconte quelque chose de super important dans ce personnage, qui est une actrice dont on a contrôlé le corps toute sa vie, dont son mari passe son temps à compter les calories, et en fait, elle veut se tirer de ce milieu, elle veut cesser de faire
oui,
ce métier.
Oui, mais même ce dialogue-là, il est didactique, Marie.
Presque pathologiquement.
C'est mal écrit, tu peux pas dire le contraire. C'est une enfilade de clichés.
La meuf est démente, mais son corps à l'écran est démente.
C'est un film qui n'a aucun mystère, aucune grâce. Et pourtant, alors là, Dieu sait que Kechiche m'a beaucoup, beaucoup agacée, notamment lors du premier volet, avec ce côté obsessionnel, prédateur, cette espèce de regard de vautour sur les corps des jeunes acteurs et surtout des actrices. Là, on n'est plus du tout là-dedans. C'est juste quelqu'un qui est arrivé. Alors, tu parlais de l'épuisement, mais c'est lui qui est épuisé, malheureusement. Il ne faut pas tirer sur une ambulance, mais c'est un peu ça, en fait, le problème.
Est-ce que quelqu'un dans le public souhaite participer à ce débat concernant Mektoub My Love, Canto Doué d'Abdelatif Kechiche? Non, malgré le public très nombreux, aucun bras ne se lève.
Un vrai succès populaire.
Pour ce qui nous concerne, en tout cas. Après Mektoub My Love, Canto Doué, on continue avec le deuxième long-métrage de Roman Boringer, Dites-lui que je l'aime, inspiré du roman autobiographique de Clémentine Autain. Au début du film, Roman Boringer met en scène la nécessité d'adapter ce livre. Comme elle, Clémentine Autain a perdu sa mère quand elle était enfant. La mère de Clémentine Autain s'appelait Dominique Lafin. Elle était comédienne. Elle est morte à l'âge de 32 ans. La mère de Roman Boringer s'appelait Marguerite Bourry. Elle est décédée à l'âge de 36 ans. Ces deux femmes ont eu un parcours assez proche. L'une et l'autre ont eu la trentaine dans les années 70. Elles n'ont pas su ou pu être mère. L'alcool et la drogue les a emportés. La comédienne Eva Yelmani incarne ces deux femmes à l'écran. Dans le deuxième mouvement du film, Roman Boringer mène plus précisément l'enquête sur sa propre mère. Christophe.
Alors c'est un magnifique film, c'est un film vraiment qui m'a bouleversé. Ce qui fait la différence entre un grand film et un film secondaire, c'est la nécessité. Et là, il y a une nécessité, c'est un film qu'elle a fait avec ses tripes, véritablement. Elle dit quelque chose, Roman Boringer, d'extrêmement profond. Alors j'avoue que j'ai été d'autant plus bouleversé par ce film qu'il se trouve que dans mon très jeune âge, j'ai connu Dominique Lafin, la vraie. Et c'était vraiment ça. Et je trouve qu'Eva Yelmani, elle rend très très bien la fragilité, la gentillesse aussi, et le fait que cette femme ne savait pas comment vivre, elle ne savait pas comment élever son enfant. Elle aurait bien voulu le faire, mais elle n'en était juste pas capable. C'est un très très beau film sur les rapports mère-fille. Alors sur un plan formel, c'est intéressant la façon dont Roman Boringer procède, parce que me rappelez moi les films d'Agnès Varda, notamment Les Glaneurs et la Glaneuse, c'est-à-dire une façon d'une sorte de caméra stylo où on parle soi-même, et puis en même temps il y a quelques scènes qui sont jouées, puis dont revient à la réalité, et j'ai trouvé ça très beau. Alors certes, on se perd un peu, ça sera le petit bémol, on se perd un peu dans le labyrinthe de la famille Boringer, j'ai pas tout compris. Certes, on aimerait savoir comment Clémentine Autain et Roman Boringer, finalement, ont triomphé de ces enfants si chaotiques.
Ah bah le film le raconte quand même.
Oui, mais pas vraiment,
c'est l'objet du film.
Passé, mais elle parle pas vraiment d'aujourd'hui, enfin c'est peut-être, j'ai pas regretté, mais c'est un film très juste.
C'est assez riche.
C'est une plongée fascinante, faut le dire, dans les coulisses du cinéma.
Paris.
J'entends le reproche qui nous a été fait de parler moins avec notre cœur qu'avec notre cerveau. Et il se trouve que c'est un film qui touche au cœur. Mmh. D'abord, je crois qu'il est fait avec ça. Et il a parlé au mien. J'aime les histoires de famille. J'ai eu une mère. et j'ai des filles. Donc, si vous voulez, le sujet m'intéresse beaucoup. Et il se trouve que l'entrée en matière du film le rend immédiatement aimable. C'est extrêmement sympathique ce que fait Roman Boringer.
Oui, parce que je le redis, elle met en scène.
Mais oui, et puis
son geste d'adaptation.
C'est tellement sincère.
Du livre de Clémentine Autain.
Elle se met en scène en train d'entendre parler du livre à la télévision. Elle s'assied, on sent son émotion, etc. C'est très joliment fait, etc. Il se trouve que formellement, le film a des maladresses, donc je serai la méchante qui les remarque, parce que ça n'empêche pas de l'aimer, c'est ce que je voulais dire, c'est simplement,
c'est
d'un point de vue formel, on oscille entre le docudrama extrêmement mis en scène, des lectures, des témoignages, des reconstitutions que j'ai trouvées un peu scolaires, c'est-à-dire la mémoire floue, avec des images floues à l'écran, l'attente avec un plan sur une pendule, un plan sur le téléphone qui ne sonne pas, etc. C'est à la fois naïf, joli, un peu inoffensif. Il se trouve que moi, le film me passionne vraiment quand il devient une enquête telle quelle de Roman Boringer sur sa mère. Parce que cette idée qu'elle ait vécu toute sa vie avec, dans un sac plastique, dans le placard du salon, des documents qu'elle n'a pas osé consulter et que tout à coup, elle s'en empare et qu'elle nous embarque sur les traces de cette femme qui a connu ce qu'ont été les années 80, une solitude, la dope, l'alcool, mais aussi le racisme, mais aussi la misogynie, mais aussi voilà, toute une histoire en marge du showbiz, et d'aller avec elle à la découverte, ben ça crée des moments vraiment d'émotions pures, c'est-à-dire de larmes, voilà.
Ariane ?
Moi, ce que je trouve assez extraordinaire, j'aime énormément ce film aussi, c'est que c'est un film qui est d'une intimité incroyable. Et d'une part, il n'est jamais impudique. Et d'autre part, il touche à quelque chose de profond en chacun d'entre nous, qu'on ait eu des mères défaillantes ou, en l'occurrence pour moi, une mère très aimante, peu importe. Tout d'un coup, on se projette sur une histoire qui n'est pas la nôtre et elle arrive à nous la rendre d'une proximité folle. Pourquoi ? Marie l'a très bien dit, elle s'implique beaucoup dans ce récit, mais surtout, il se passe un truc presque de gémelléité incroyable, foudroyante, entre elle et Clémentine Autain. Clémentine Autain, elle est un peu en retrait, je dirais qu'elle a un peu un second rôle, même si c'est elle, au départ, qui déclenche cette envie de film auprès de Romane. On va accompagner surtout le récit de Romane, mais les deux destins vont se confondre, et la façon dont Romane Bourringer, et j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est une cinéaste, et elle le prouve complètement cette fois-ci, c'est quand même son deuxième long-métrage, la façon dont elle met en scène le lien qui peu à peu se tisse entre elle et Clémentine, comme si elles devenaient deux jumelles. Et on le retrouve ensuite dans la partie qui effectivement est un tout petit peu plus sur la corde, la partie fictive. Je trouve ça magnifique.
Nicolas ?
Ben, je suis désolé, mais il va falloir aller voir le film parce que j'ai trouvé ça aussi assez miraculeux. non, mais vraiment, non, oui, c'est vraiment, alors tout prêté au pire, c'est-à-dire vraiment l'exploitation du Darmentine d'autrui pour mettre en valeur le sien, c'est vraiment, ça aurait pu sombrer là-dedans. Le déballage de linge sale, de pathos et de rancœur intime, enfin, comme ça. Et même une pornographie des sentiments, et ça ne l'est jamais. C'est ça le miracle du film. Le film est tout le contraire. Et dès le début, qui est une scène quotidienne chez elle où elle tombe sur l'émission de Ruquier, où elle voit Autain parler de son film, il y a du cinéma, parce que on ne voit pas l'émission, on ne voit que le visage d'Autain
en gros plan,
en contre-champ avec le visage de Bourringer, comme si elles se parlaient déjà et qu'elles se reconnaissaient.
Comme si elles sont deux jumelles.
Et avec Christine Angot derrière en off, qui n'est pas non plus innocent, qui fait une critique élogieuse du livre, pour une fois. Et donc, c'est assez... donc déjà, il y a du cinéma. Et après, elle traite plein de régimes d'images différents, plein de régimes de récits, de fiction, de documentaires, vous l'avez très bien dit. Et elle retombe toujours sur ses pieds, même quand parfois c'est un peu maladroit. Il y a un moment où il y a une litanie de questions qu'elle aurait aimé poser à son père, Romane Bourringer, Richard Bourringer, sur des images de lui qui marche dans un
c'est
jardin
très beau,
d'une
c'est
résidence.
Très beau.
Et on sait que, vu l'âge qu'il a, l'homme
et là,
qu'il
il
est
malade aussi.
Il est malade, il ne répondra jamais à ses questions. Et il le fait un peu plus tard, juste, il ne répond pas aux questions, mais il lit un passage d'un livre qu'il a écrit, parce qu'il ne lui reste plus que ce livre comme mémoire. Et le film, c'est ça, c'est vraiment une mémoire, c'est la transmission, c'est une mémoire qui se reconstruit d'une famille, une mémoire de résilience de deux femmes. Ce qu'on laisse comme trace, c'est très très beau. Et moi, ça me fait penser à un autre film qui, sur le sujet, n'a pas grand chose à voir, mais sur le geste, est très beau. C'est le film Carré 35 de Eric Caravaca, qui partait à la recherche d'une image manquante de sa famille. Et ces images manquantes qui construisent des artistes parce qu'ils en ont souffert, les voir aller les explorer avec autant d'inspiration, c'est vraiment très beau. Et je conseille ce film. Il y aurait beaucoup de choses à en dire.
Un mot, Marie ?
Oui, parce qu'on a dit des mots terribles là, qui me feraient fuir, résilience et compagnie.
Il
y a des aspérités dans le film, et notamment ce qui est montré de la honte. La honte, c'est un ressenti passionnant en littérature et au cinéma. Et là, elle touche à quelque chose vraiment qui est assez bouleversant.
Ariane, un mot,
c'est juste parce qu'il a été dit que la forme était un peu parfois flottante, mais c'est un film qui épouse la forme du souvenir. Donc forcément, il est habité par des fantômes et je trouve qu'elle trouve la forme totalement appropriée.
Et qui est ludique,
raconter.
Parce que toute la partie avec son fils, c'est hyper marrant.
Ça,
c'est
alors, il faut bien. Quand même c'est que je lourd. Raconte un petit peu les coulisses. Nicolas Chalère lève le doigt, je fais non, mais quand même, il y va. Mais la parole est à vous, public du TAP de Poitiers. Est-ce que vous souhaitez intervenir pour Dites-lui que je l'aime de Romane Bourringer ? Bonsoir madame.
Bonsoir, je ne vais pas en dire grand chose parce que j'ai adoré le film. On l'a vu à Poitiers, en plus il y avait une avant-première ici, enfin pas ici, dans la salle d'à côté, avec Romane Bourringer. Et vraiment tous les gens que je connais qui l'ont vu à Poitiers ont été vraiment très 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 émus. Donc j'en dirai pas plus, mais allez-y.
Merci pour votre intervention. Après « Dites-lui que je l'aime » de Romane Bourringer, on enchaîne avec un tout autre registre. C'est « Résurrection », troisième long-métrage du cinéaste chinois Bigan, qui, à l'âge de 36 ans, fut lauréat du prix spécial du jury lors du dernier festival de Cannes. Dans un futur lointain, le cinéma n'existe plus et les humains ont cessé de rêver. Mais quelques-uns résistent, On les appelle les révoleurs. Une femme mystérieuse, jouée par Shu Qi, explore l'imaginaire d'un de ces révoleurs, incarné par la star chinoise Jackson Yi. En allant d'un rêve à l'autre, ce révoleur endosse différentes identités et parcourt un siècle d'histoire de la Chine et du cinéma. Le film embrasse des techniques, des genres, films muets, films noirs, science-fiction et des références nombreuses. Il est composé de 6 parties, dont 5 sont associées chacune à l'un des 5 sens, j'espère que vous suivez, de la vision d'abord au toucher pour terminer. C'est donc un film odyssée par son propos, sa forme, sa durée, 2h40. Depuis la sortie, les critiques crient tantôt au chef-d'œuvre et les autres y voient un film ennuyeux ou boursouflé. Ariane, tu appartiens à quelle équipe ?
C'est un film boursouflé et magnifique. Moi, je vois là.
Et je, un peu
donc tu as non, un pied moi, dans chacune
fait, c'est un film d'une ambition telle. Moi, je l'ai vu 2 fois. Je pense que je pourrais le revoir encore une 3e fois et trouver d'autres accès, d'autres portes. Il faut juste bien comprendre, même pour ceux qui ont eu du mal à rentrer dedans, que c'est un film sensoriel. Donc, il n'y a pas des pancartes qui vous expliquent, bah là, vous êtes en telle année, ou là, c'est tel genre. Ou... Et en plus de ça, c'est un film sur la métamorphose, puisque c'est un film qui épouse, là encore, non pas la forme d'un souvenir, mais d'une rêverie. Et d'une rêverie qui est un hommage aux rêveurs qui se perdent dans leurs rêves. Mais c'est pas confus, jamais. D'abord parce qu'il y a ses repères, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs genres, et entre chacun de ces chapitres, il y a une voix très belle, qui est la voix d'une actrice qui est très chinoise, emblématique, qui s'appelle Shu Qi, qui a été l'actrice héroïne d'un film de Wu Xiaoxian qui s'appelait Millennium Mambo, qui était un film en apesanteur, et elle a exactement la voix qui convient pour relier ces chapitres et pour nous emmener. Alors, il y a quand même une chose très importante à dire, c'est que c'est aussi un film qui est bouleversant pour une raison très simple, c'est que ça raconte quand même la disparition d'un monde. Et à travers la disparition de ce monde, c'est-à-dire c'est le XXe siècle, hein, tout le film épouse en fait l'odyssée du XXe siècle. Et à travers cette odyssée, ça nous raconte l'odyssée du cinématographe. Je ne peux pas raconter la fin, mais c'est une des fins les plus poignantes et des plus belles visuellement que j'ai pu voir, qui est un adieu à ce monde-là, et qui forcément, pour tout cinéphile que nous sommes, que l'on soit cinéphile hyper maniaque ou juste parce qu'on aime rentrer dans une salle de cinéma, parce que c'est aussi ça, hein, c'est un hommage à la salle de cinéma, qui est absolument splendide.
Nicolas, tu as consulté ton carnet.
Voilà, cinématographiquement, c'est esthétiquement, formellement, c'est vraiment une splendeur. Il y a des choses magnifiques, notamment ce dernier plan qui est une métaphore de l'avenir du cinéma. Il y a plein de belles idées. Après, moi, j'ai l'impression de voir un film à la fois un film d'illusionniste et un film un peu de battleur de musée qui veut raconter beaucoup de choses tout en étant assez sibyllin, parce que Bigan, il travaille quand même en Chine. Il raconte aussi l'histoire de la Chine à travers, l'histoire du cinéma et puis l'histoire de la Chine. Et il travaille beaucoup de symboles. Il travaille à la fois des genres de cinéma, mais aussi beaucoup de symboliques qui deviennent à un moment tellement sibyllines et tellement pas désincarnées parce qu'il peut pas les incarner.
T'es en train de nous dire que parfois t'as rien compris.
Mais c'est pas qu'on a rien compris. C'est qu'il y a un moment, on est trop distant du film et que, par exemple, les segments des années 40, très hommage à la Dame de Shanghai où il parle d'homosexualité, ça manque du charnel que le traitement devrait avoir. Et donc, c'est le problème du film. Et alors, c'est le problème de la censure aussi en Chine. Donc, c'est un film qui souffre de son ambition et de ses impossibilités, et en même temps de ses grandes idées. Et il y a vraiment des fulgurances formelles dingues. Donc, il faut le voir si on a la patience et qu'on est dans l'état comateux.
Il faut se laisser juste emporter. Il faut accepter.
Mais à un moment, on peut se laisser emporter. Il faut qu'il y ait quand même le sensoriel. Mais il faut qu'il soit
incarné. Nicolas Chalère ne veut pas la boucler.
Nicolas Chalère se laisse emporter.
Le sensoriel manque justement.
Marie, c'est à toi.
Ben, je vous rejoins, c'est sublime et abscon. Alors cette idée de se balader comme ça dans l'histoire du cinéma, de passer de Méliès aux Lumières, de refaire l'arroseur arrosé, etc. Pour moi, ça produit pas beaucoup d'émotions. Je suis à la fois subjuguée par les visions dont pleines me reviennent, un zoom sur une pupille qui tout à coup devient un tourbillon de fleurs de pavot, des mains ensanglantées qui jouent du thérémine. De temps en temps, on est absolument sidéré par la beauté plastique du film et par les audaces formelles de Bigan. Mon souci, c'est que j'ai pas de personnage, j'ai à peine une histoire, et que en fait, entre le segment muet que je trouve assez fascinant et le plan séquence inouï qui se passe au dernier jour de 1999, la clôture du siècle, je me suis beaucoup embêtée. Tu parlais du segment film noir, tu as dit que ça parlait d'homosexualité. J'ai vu le film deux fois, tu me l'apprends. Et...
non, mais c'est ça qui est génial.
Mais le souci, si tu veux, c'est que parfois, les gens qui te racontent leurs rêves, c'est hyper casse-pied, parce que c'est pas les tiens. Et ce qui m'a ennuyé, si tu veux, c'est que ce mot sublime de rêveleur, de gens donc qui vivent dans leurs films, dans leur tête, et qui rêvent la vie, j'aurais dû être bouleversée, parce que c'est littéralement notre vie à ben tous, oui, d'être des rêveleurs. Et il se trouve que j'ai vraiment galéré par moments à pas me sentir totalement exclue. Il faut dire que ce segment, par exemple, qui me semble vraiment raté, il est si tu veux, le grand sommeil à côté, c'est Martine Détective, et qu'à un moment, un tout petit peu d'aide pour le spectateur, un tout petit accueil, c'est pas mal.
Est-ce que tu es un révoleur, Christophe ?
Non, bah oui et non, quoi. C'est vrai que c'est des images d'une beauté époustouflante. C'est beau de bout en bout. C'est un peu comme visiter une galerie d'art contemporain. C'est-à-dire, c'est absolument magnifique, mais l'intrigue, on se perd dedans. On ne comprend rien. Moi, vous me dites, la fin, c'est incroyable. La fin, ah bon ? Ça aurait pu continuer. J'étais pris dans une espèce
de fascination. Mais non, ça raconte la fin d'un monde. Ça ne peut pas continuer.
Non, mais j'entends bien. Mais moi, j'ai été pris dans une espèce de fascination pour des images qui s'enchaînaient. Mais il me manquait, effectivement, l'histoire, la chair, comme vous l'avez dit très justement, c'est vraiment un film au premier sens du mot expérimental, qui hérite, moi je trouve, de Jean Cocteau, qui hérite de David Lynch, c'est-à-dire ces cinéastes du rêve influencés par le surréalisme. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des mouvements de caméra époustouflants, 36 minutes de plan séquence dans les bas-fonds d'une ville chinoise, je vais y arriver, le 31 décembre 1999, bon ça c'est très très beau, mais ça reste très formel, et ça donne l'impression de voir un spectacle d'avant-garde.
Ça mérite d'aller voir le film.
Mais moi,
pour des changements de point de vue dans le plan séquence, où tout à coup on passe en subjectif, du subjectif, c'est dément
à voir. Ça, on dirait du Léo Scarrax.
Mais il y a juste Ariane pour finir.
C'est un film pour cinéphiles.
Ariane pour finir.
C'est juste dire que c'est un film en forme de poème et qu'à un moment donné, il faut arrêter de rationaliser les choses. Si vous aimez lire de la poésie, vous aimerez forcément ce film.
Mais les poèmes,
qui est
ça
un
fait
film
une page.
Poème de 2h40.
Est-ce que le public du TAP souhaite participer à ce débat sur Résurrection de Bigan ? Oui. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Merci beaucoup déjà pour venir ici. C'est super. Alors moi, on l'a vu tous les deux avec ma compagne à côté cette semaine à La Rochelle. Et je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que je trouve que c'était magnifique. Mais même à deux, on a quand même eu beaucoup de mal à comprendre du début
même
à la fin. Et pour autant, je rejoins tout à fait qu'il y a des scènes où j'étais bluffé de tant de beauté, et typiquement le plan séquence sur le dernier film est super, mais je pense qu'il faut quand même prévenir que c'est pour un public averti. Moi, il y a quand même des moments où j'ai complètement perdu le fil, et pour autant, il nous rattrape avec des choses qui sont superbes, donc ça vaut le coup quand même d'y aller. Moi, je suis quand même content de l'avoir vu. Merci.
Merci pour votre intervention. Après Résurrection de Bigan, on va parler maintenant de La Condition, réalisée et écrite par Jérôme Bonnel. Pour le scénario, Jérôme Bonnel s'est inspiré d'un roman de Léonore de Récondo, intitulé Amour, au pluriel. Première adaptation littéraire et premier film d'époque pour Jérôme Bonnel, puisque l'histoire se déroule en 1908. André est un notaire bien établi qui vit dans une vaste demeure normande au milieu de quatre femmes. Au rez-de-chaussée, sa mère grabataire, mais à la rudesse intacte. Sous les toits, deux bonnes, dont la plus jeune se prénomme Céleste. À l'étage, André vit avec sa jeune épouse Victoire, et certains s'étonnent que le couple n'ait pas d'enfant. Victoire subit l'intimité conjugale, et les soirs où elle se refuse à son mari, il abuse de Céleste. La jeune bonne tombe enceinte, et l'enfant à venir va faire vaciller l'équilibre de la maisonnée. C'est un huis clos autour de ce duo de femmes, Victoire et Céleste, la bourgeoise et la bonne. Louise Chevillotte interprète Victoire, Galatea Bellougi et Céleste, Swann Harlow incarne André et Emmanuel De Vos et sa mère. Nicolas.
Alors, je voudrais prendre il y a un vase en porcelaine qui à un moment a un rôle dans le film, et c'est un peu comme un vase en porcelaine. C'est précieux comme un vase en porcelaine dans tous les sens du terme.
Tu l'as bossé, cette image.
Non, mais c'est vrai. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est finement, artisanalement, subtilement conçu. Et en même temps, c'est d'une délicatesse telle qu'il faut vraiment en prendre soin au risque de le briser et de passer à côté du film. Là, celui-là, alors, pour citer quand même quelques-uns de ses films, Le Temps de l'aventure, qui était vraiment formidable, ou À trois, on y va. Et celui-là est vraiment assez irréprochable dans sa mise en scène, l'enfermement des personnages, un travail de clair-obscur, sachant que c'est presque toujours dans le même lieu, dans une maison. Et il y a vraiment un travail irréprochable. Pareil dans la déclinaison de son propos, c'est-à-dire qu'on pourrait être dans un film sur le patriarcat, les rapports de classe, la condition féminine. C'est plus intelligent que ça. C'est vraiment un film sur des solitudes face aux conventions sociales.
Christophe.
Vas-y, casse tout.
Je suis désolé, mais il s'agit d'un film certes austère, étouffant, un peu silencieux comme ça, qui vise à dénoncer la domination patriarcale en 1908. C'est précisément ce que fait le film. Si je dois résumer le film, c'est quand il y a un homme, il n'y a pas de plaisir. Voilà, en gros, c'est ça le film.
Ouais, mais c'est plus subtil.
On
évoque le droit de cuissage, on évoque des thèmes qui sont finalement très modernes aujourd'hui. Il y a même à un moment donné la question de la GPA qui est posée dans ce film. Donc on est quelque chose d'assez moderne. Maintenant, ça s'inspire d'un livre de Léonore de Recondo qui s'appelait Amour. Oui. Et alors, c'est intéressant parce que le livre était écrit du point de vue, si je me souviens bien, pour l'avoir lu il y a très longtemps, de Victoire, c'est-à-dire la femme dont il était question. Et on pouvait y voir un peu un équivalent lesbien de Madame Bovary. Sauf que là, le film ajoute effectivement de la complexité parce qu'il se focalise sur le sort de la jeune bonne Céleste. Effectivement, on ne sait jamais si elle va être instrumentalisée par la femme comme elle a été instrumentalisée par l'homme ou pas. Et je veux dire, ça, c'est plutôt intéressant comme ressort dramatique. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, j'ai eu l'impression de voir un film très, 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 très contemporain qui se passe curieusement en 1908.
Ariane ?
Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est au départ effectivement un cinéaste très contemporain. Or là, il choisit de faire un film d'époque. J'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi. Et je me suis dit, en fait, Jérôme Bonnel, c'est presque un cinéaste anachronique aujourd'hui, parce que c'est un cinéaste qui privilégie quoi ? La nuance. Or, on peut pas dire qu'on vit dans un monde de nuances.
C'est pas très nuancé.
C'est très nuancé, c'est toujours subtil. Dans sa forme comme dans le fond. Dans la forme, il privilégie l'ellipse, il privilégie le hors-champ, il privilégie tout ce qui n'est jamais dit, ou qui est peu dit. La relation entre les deux femmes, tu vas pas me dire que... elle est tout en délicatesse et tout en ambiguïté. À aucun moment on nous montre des images pour nous dire alors voilà c'est comme ça, voilà comment tu dois réfléchir, etc. Et en fin de compte, je me dis que ce cinéaste très contemporain, qui pour, à mon avis est très sous-estimé aussi dans le cinéma français, nous fait un film qui par le passé éclaire notre présent, un présent où on montre tout, où on ne cache jamais rien, où la pudeur est exclue, et surtout on a un monde où la complexité a été complètement éliminée, et lui fait exactement le contraire en nous montrant par l'inverse, il nous parle d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui t'a surpris.
Marie.
Alors justement, dans cette histoire de lutte des classes, il y a une ironie sans cesse renouvelée.
Bah oui.
C'est que les plus beaux rôles, c'est les rôles des bourgeois, évidemment, les plus intéressants. Swann Harlow, parce qu'il joue cette espèce de type qui est héritier d'un système, qui lui a donné tous les droits.
Ouais. Il n'a pas la carrure.
Et qui est montré comme un petit garçon géniard, sans arrêt en train de pleurnicher. Il voudrait tellement qu'on le plaigne, il voudrait tellement qu'on le console, pauvre chouchou, d'avoir tout. Et puis elle, évidemment, qui est un personnage assez passionnant, parce que c'est celle qui a le trajet le plus intéressant. C'est-à-dire qu'au début, elle est montrée pour ce qu'elle est, une bourgeoise bien embêtée que sa bonne soit enceinte et qui...
Il n'y a pas que ça mariée, c'est aussi une bourgeoise insatisfaite.
Mais c'est une bourgeoise insatisfaite, mais en même temps, la lutte des classes entre elles deux, il n'y a pas de mystère au début. Et c'est intéressant de voir comment un enfant va construire une sorte de pont. Et je vous rejoins quand vous dites que c'est un cinéaste de la finesse et du demi-mot. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire de l'employé de maison se découvre au détour d'une phrase.
Voilà.
Elle est avec Victoire et puis tout à coup, elle lui dit « Mais moi, il y avait des gestes que je connaissais à cause d'un de mes frères. » Et on n'en saura pas plus. On hérite de l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi ? Le berceau des dominations, l'inceste, la violence masculine et les viols qu'elle subit, ce droit de cuissage. Et cette finesse de Jérôme Bonnel, je trouve, sert vraiment le film.
Finesse, mais banalité du thème.
Et qui parfois, alors, juste parce que j'avais...
Excuse-nous de t'emmerder avec nos histoires douloureuses de bonnes femmes, Christophe.
La violence patriarcale n'est pas banale, quand même. Hein. Surtout pas aujourd'hui, encore moins hier.
Non, mais moi, j'avais juste une...
Nicolas, pour finir...
Après avoir dit tout bien que je pense de Jérôme Bonnel, j'avais juste une réserve sur ce film-là quand même, où il y a dans le dialogue très soutenu, écrit un peu à l'ancienne, un peu pour coller à l'époque, je ne sais pas s'il y a une ironie cruelle qui est maladroite ou mal interprétée, ou s'il y a quelque chose de trop lisible à certains moments, où le dialogue, je le trouve un peu trop explicite sur les thèmes qu'il porte. À côté de ça, il y a des gestes d'une délicatesse et des choses qui sont très fines.
Mais Christophe a raison quand il dit qu'on a énormément de récits d'émancipation ces dernières années, et que l'époque, la réflexion, civilisation, le progrès aussi, veulent ça, tant mieux. Mais je trouve que là où il est plus intéressant, c'est que c'est un récit d'évasion.
Mais bien sûr.
Évadez-vous ? Oui, quelqu'un dans le public souhaite prendre la parole pour La Condition de Jérôme Bonnel.
Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé ce film que j'ai vu en avant-première au TAP, là, à Poitiers. Et justement, ce thème n'est pas souvent abordé dans le cinéma. C'est-à-dire qu'une époque où, dans un milieu souvent rural, les femmes d'un milieu défavorisé, hein, qui avaient du mal à survivre, étaient placées chez les bourgeois. Et c'est vrai que je trouve qu'on en... Moi, ça fait écho. J'ai pensé à cette histoire qu'on m'a racontée dans la famille. Et donc, le bourgeois avait tous les droits. Alors, chacun, en effet, est prisonnier de conventions. On n'a pas parlé aussi d'Emmanuelle de Vos, son rôle extraordinaire qu'elle joue très bien, qui est la mère, qui est muette, mais je veux dire, elle est muette, mais dans les sentiments qu'elle éprouve et les émotions, elle joue hyper bien. Et où elle est garante aussi des conventions. Et c'est une femme, mais elle reproduit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas casser le système. Mais l'homme, je le trouve pathétique, parce qu'il est pris, lui aussi, dans un engrenage, donc il peut être victime. Mais ce qui est génial, c'est la fin. Il faut voir ce film pour la fin, avec ses solidarités féminines et cette émancipation.
Merci pour votre intervention. Après La Condition de Jérôme Bonnel, on termine avec Gérald le Conquérant, comédie de et avec Fabrice Éboué. La Normandie, c'est moi. Hurle Gérald, métis normand, Fabrice Éboué à l'écran, qui entend défendre sa région natale contre l'invasion parisienne, entre autres. Auto-investi de cette mission, Gérald a un projet grandiose. Créer, je cite, un parc d'attractions identitaire en l'honneur de son héros, Guillaume le Conquérant. Malgré le peu d'adhésion à son projet, Gérald se lance avec son épouse, jouée par Alexandra Roth, son fils, interprété par Logan Lefebvre, et ses copains de bistrot. Toute l'histoire est racontée sous la forme d'un faux documentaire, ce qui suppose œillade vers les spectateurs que nous sommes et témoignage des personnages face caméra. Ariane ?
Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime bien chez Fabrice Éboué, comme scénariste et comme réalisateur, c'est qu'il sait, en tout cas, il ose s'attaquer à des sujets qui sont, la plupart du temps, sinon sensible, en tout cas très polarisant.
À savoir l'esclavage, les religions.
Il était quand même bien réussi, je trouve, finalement, le film Casse-départ. Hein, je ne sais pas si vous en souvenez. Il y a eu aussi la guerre entre les véganes et les non-véganes, là, avec Barbac. Bon. Bref, là, donc, il s'intéresse à cette espèce d'obsession identitaire aujourd'hui, et, bon, pour ne pas citer au modèle du Puy du Fou. Hein. Et on se dit, l'idée, elle est quand même super excitante à la base. Surtout qu'en plus, lui-même étant métis, on voit bien qu'il y a une espèce... Ça peut d'ailleurs rendre le personnage assez poignant, je trouve, cette espèce de flottement identitaire qu'il peut avoir lui, parce qu'évidemment, il est l'objet finalement d'un racisme assez rentré, mais quand même assez déplaisant. Le problème,
assez déplaisant,
moi je trouve,
c'est un euphémisme.
Qu'il est censé nous faire rire, ce film, et que moi je l'ai vu en salle, en plus avec des vrais spectateurs, pas que des journalistes, et ça riait assez peu. Je trouve que globalement, le scénario flotte, et je dis pas ça uniquement parce que ça se passe en Normandie, donc il y pleut souvent. Et c'est vrai, il y a des moments de répétition, même le procédé qui au départ, je pense que c'est un clin d'œil, je ne sais pas si vous connaissiez, à l'émission Striptease, l'émission belge qui était géniale. Enfin, c'est vrai que bon, c'est pas mal comme forme, parce que je pense qu'Éboué n'est pas un très grand réalisateur, donc ça pouvait donner un peu de piquant à sa réalisation. Mais en fait, il l'utilise d'une façon assez répétitive, là encore, où il fait souvent des petits clins d'œil de biais, un peu furtifs à la caméra. Ça devient un procédé, et ça devient, pareil, un petit peu platouné.
C'est moins des clins d'œil de biais que des regards hyper inquiétants et hyper insistants, parce que c'est vraiment des regards en dessous, de plus en plus affolés et affolants.
Mais t'as pas l'impression que c'est très répétitif.
Tu n'as pas trouvé que ça te rappelait complètement
Dieudonné
avant Jalil. C'est sa dimension flippante, tu vois.
Alors, sauf qu'il reste gentil,
ce qui est compliqué, si tu veux, c'est que cette forme de faux documentaire façon Striptease, c'est aussi une façon d'assumer de filmer de la téloche moche,
voilà.
Et de filmer ça, là va comme je te pousse. Et comme le problème, c'est qu'il a étiré des sketchs qui sont vraiment très inégaux, mais qui reviennent, le sketch de la discussion de bistrot, le sketch de la ferme pédagogique, le sketch de ci, le sketch de ça. À un moment, c'est vrai que pour arriver péniblement à 1h23, mais malgré tout, je vais quand même dire les fois où j'ai ri grâce à Franck Dubosc, parce qu'il joue la star normande, Made in Normandie, qui... qui l'appelle au secours pour l'aider à financer son projet fou. L'ado neuneux qui apprend à faire des bombes sur Telegram.
Et l'explosion de vache aussi.
Oui, je trouve qu'il est assez marrant. Après,
l'explosion de taupe.
Non, mais au départ, c'est des taupes et après, c'est des vaches.
Après, il touche quand même quelque chose de juste, il me semble, et même s'il ne se dépatouille pas complètement de son sujet, sur ce que c'est que la folie identitaire, dans cette idée de reconstituer une Normandie invincible, je le cite, et qui montre bien que les identitaires s'appuient sur une histoire qui n'a jamais existé. Il réinvente comme ça un passé glorieux, grotesque, où il a des slips au blason de la Normandie et un tatouage de Guillaume le Conquérant sur le torse, et que tout ça finalement cache des failles et des folies plus profondes et plus personnelles.
Nicolas ?
Moi j'aurais aimé défendre ce film parce que Fabrice Eboué est quelqu'un qui me fait beaucoup rire en one man show, je vous conseille, moi j'avais vu son dernier one man show qui était ce que j'ai vu de plus drôle il y a 2 ans, mais là malheureusement il a une fascination pour C'est arrivé près de chez vous, que film qui s'était inspiré de Striptease et qui est vraiment le modèle de ce faux cinéma de reportage, sauf qu'il a pas, ce n'est pas Benoît Poelvoorde, il a pas le génie de Poelvoorde, parce qu'il faut être un putain de comédien, excusez-moi du terme, pour tenir comme ça le... Et puis, il faut avoir des idées de mise en scène. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Et on le sent ramer, galérer dans les plans, à faire les gros yeux de Dieudonné. Mais au bout d'un moment, on a compris. Et surtout que le sujet, le fascisme identitaire, il était d'une actualité et vraiment propice à son mauvais esprit.
C'est pour ça qu'il s'y frotte, d'ailleurs.
Le miracle du film, c'est qu'il ait réussi à se faire produire par Canal+, donc par Bolloré.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est et vrai. Ça,
Christophe,
bravo.
Très juste.
Christophe.
Ben, en fait, il est connu, Fabrice Eboué, comme un humoriste pince sans rire. Et là, c'est vrai qu'il veut dénoncer le racisme, la xénophobie, en se déguisant, comme tu l'as dit, en une sorte de Dieudonné. Bon, le problème, c'est que c'est un film qui instille le malaise. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu dans une salle, dans une avant-première de gens acquis à Eboué. Il ne riait pas parce que pendant les 30 premières minutes du film, on se demande si Fabrice Eboué n'est pas en train de nous dire qu'il s'est converti à l'idéologie identitaire. C'est-à-dire que c'est très ambigu comme film. C'est mal fabriqué, le scénario est mal fait, et vous avez cette impression-là au début, puis ensuite, bien sûr, on comprend, mais enfin, on tombe dans une espèce d'humour lourdingue. Alors, il ose faire une référence à Striptease, mais Striptease filmait la réalité, alors que là, on prend une sorte de faux reportage qui filme des acteurs en train de jouer la comédie. Donc, évidemment, on est dans l'inverse absolu de ce qu'a pu être Striptease. Je dirais que c'est dommage de prendre un sujet pareil et de rater sa cible. Moi, j'ai vu, en tout cas, le public qui était acquis à lui, qui ne riait pas, donc c'est peut-être un signe.
Qu'en est-il de vous si vous souhaitez intervenir pour participer à ce débat sur Gérald le Conquérant de Fabrice Eboué ? Non, alors, virgule. C'est l'heure de vos coups de cœur. J'insiste un peu sur le vos puisqu'une nouvelle grippe a copieusement embrumé mon cerveau la semaine dernière et ne m'a pas permis de nouvelles trouvailles pour l'émission de ce jour et la suivante. Bref, qu'à cela ne tienne, grâce à vous, d'autres films ou livre s'ajoute au programme. Christophe, qu'as-tu choisi ?
Moi, j'ai un très beau film, d'un premier film qui s'appelle Lady Nazca. C'est un film d'un acteur suisse qui s'appelle Damien Dorsa. C'est son premier long métrage. Alors, en fait, c'est une histoire incroyable parce que c'est l'histoire d'une femme qui a vraiment existé, qui s'appelait Maria Reiche, qui était une Allemande expatriée au Pérou et qui a décidé, un jour, par hasard, elle a découvert les mystérieuses ruines de Nazca, le site précolombien de Nazca, et elle a décidé de sauvegarder ce site. Mais alors, faut dire que le site de Nazca, c'est des lignes gigantesques de dessins mystérieux qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres. C'est-à-dire que c'est un site hautement mystérieux. Alors, les images de Gilles Porte sont d'une beauté extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Et je retrouve dans ce film très initiatique, je retrouve à la fois la sobriété des premiers films de Wim Wenders et puis un côté Werner Herzog. Mais c'est surtout un film qui m'a fait penser à La cicatrice intérieure, un film lointain de Philippe Garrel, où il y a déjà Nico qui marche dans le désert, qui tourne en rond dans le désert, et là cette femme qui tourne en rond dans le désert, avec en plus on va comprendre dans ce film ce que c'est que ce site de Nazca, parce qu'elle a trouvé la clé, je ne vous le dis pas, mais c'est vraiment vachement intéressant, très profond, très beau film.
Lady Nazca de Damien Dorsaz. Marie, tu as choisi aussi une figure féminine.
Oui, et un film italien, Fuori de Mario Martone. Et alors d'ailleurs, c'était déjà pour vous proposer de passer un week-end à Rome. Dans son long métrage précédent, Nostalgia, il se posait à Naples. Et là, ce sont des déambulations romaines en compagnie d'une héroïne exceptionnelle, puisqu'il s'agit de l'écrivaine Goliarda Sapienza, l'autrice de L'art de la joie. Alors, c'est intéressant parce que c'est tout sauf un gros biopic appliqué ou hagiographique. Mmh. Et c'est plutôt un épisode modeste et ensoleillé. Donc l'autrice est en galère d'argent quand on la rencontre dans le film. Elle vivote au tournant des années 70-80. Elle a été en prison d'ailleurs pour vol. Et fuori, ça veut dire dehors en italien. C'est dehors, en dehors de la prison, et c'est en dehors de l'appartement. Il y a beaucoup de déambulations comme ça dans cet été romain. Et elle va rencontrer des amies diverses, avec des, et ce sont des histoires intenses d'amitié féminine, comme on
d'amitié
en voit.
D'amitié amoureuse, même.
D'amitié amoureuse. Parfois, ou pas toujours, mais en tout cas, comme on en voit peu, je trouve, au cinéma, et voilà, elles sont intenses, et aussi intenses que l'interprétation de Valeria Golino, qui est sublime dans ce long métrage.
Fuori de Mario Martone. Ariane.
Alors moi, c'est un deuxième film dont j'ai envie de vous parler, pour lequel j'ai eu un grand, grand coup de cœur à Cannes, et qui sort donc très prochainement. Il s'appelle Love Me Tender. C'est le nouveau film d'Anna Kajnav-Camber, qui avait fait un premier film intéressant qui s'appelait De l'or pour les chiens, je sais pas si vous en souvenez, en 2021. Et là, c'est l'adaptation d'un récit qui porte d'ailleurs le même titre, un récit très puissant et tout à fait autobiographique de Constance Debré. Donc voilà. Et ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Constance, une femme qui était avocate et qui est devenue écrivain, donc qui a changé de statut social et qui en plus est en instance de divorce et se voit retirer la garde de son fils parce qu'elle a annoncé à son ex-mari qu'elle entretenait désormais des relations avec des femmes et lui, par dépit ou par orgueil, a décidé de lui faire la misère vraiment absolument. Et si ce film est aussi touchant, quelle que soit la situation ou vraiment c'est les relations qu'on peut nouer ou l'intimité qu'on peut avoir, c'est qu'il pose une question qui est complètement universelle et absolument bouleversante, c'est: quel est le prix à payer pour être libre, et notamment quand on est une femme aujourd'hui? Le film, il est formidable parce qu'il est d'une grande sobriété. En fait, moi, j'ai réfléchi pour trouver une formule, comme mes petits camarades, et je me dis que c'est un film qui retient ses larmes. Jamais, à aucun moment, il ne cède au pathos, comme son héroïne, qui est toujours très disciplinée,
incarnée par Vicky,
et comme
Krips,
son actrice, qui est absolument magnifique, c'est Vicky Krieps. Elle est plus qu'impeccable. Moi, je trouve qu'elle est inoubliable. Je pense que c'est son plus beau rôle.
Et je précise que le film est en salle.
Ah, il est déjà sorti.
Love Me Tender, Anna Kajnav-Camber. Nicolas.
Moi, j'ai un livre, j'aime un peu de légèreté avec un livre qui s'appelle Écran noir, les histoires vraies derrière les films d'horreur. Et un peu de légèreté parce que c'est très amusant à lire, même si le fond est assez terrible. C'est écrit par Eric Libio et le youtubeur le fossoyeur de films qui s'appelle François Torel. Et c'est, alors à chaque fois, ils reviennent sur un classique ou en tout cas un film assez culte du cinéma d'horreur ou du thriller, et ils racontent la vraie histoire qui est inspirée derrière. Donc ça va de M le Maudit, qui est inspiré par le vampire de Düsseldorf, jusqu'à d'un film comme Scream. Je ne savais pas que le Scream était inspiré par Danny Rowling, l'éventreur de Gainesville.
Et tu trouves ça drôle?
Non, parce que c'est raconté avec pas mal du humour, et il y a beaucoup d'éléments informatifs parce qu'il retrace un peu les parcours de chacun. Parce que Eric Libio, qui a notamment œuvré à Première, est quelqu'un qui a une plume et beaucoup d'humour. Et voilà, et c'est fait à deux, avec à deux mains. En plus, il y a un côté un peu schizo dans le livre. Et c'est très amusant à lire et très informatif parce que ça fait faire de beaux cauchemars après Résurrection.
Les histoires vraies derrière les films d'Eric Libio
et François Terrel.
Et ça a paru chez
Darkside.
Christophe Bourseiller, Marie Sauvion, Nicolas Chaleur, Ariane Allard, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque et la Plume depuis le TAP à Poitiers. Dimanche prochain, nous débattrons de l'actualité littéraire. Nous enregistrerons les émissions de fin d'année le 18 décembre au Théâtre de l'Alliance Française pour vous faire part à nouveau de l'actualité du cinéma, et le 19 décembre au studio 104 de la Maison de la Radio à 19h30 pour fêter les 70 ans du Masque. Dans les deux cas, vous pouvez vous inscrire sur le site maisondelaradioetdelamusique.fr. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et la Plume. Aujourd'hui, c'était avec Christophe Michou, Sébastien Huel, Charles Bonticourt, Patrick Beaulieu, Thomas Robin et Benoît Jégou pour coordonner le tout. Un grand merci à Elinka Negulesco de Toutes les Aventures pour la coprogrammation et la préparation du Masque avec l'aide de Zora Desgouttes. Rendez-vous dimanche prochain ou quand vous le souhaitez grâce au podcast pour des enthousiasmes, des désaccords et une liberté critique dans tous les cas.